On va reprendre. Comme on a pas mal traité, hein, parlé de cette question de l'empire, voyez, dès le début, hein, il y a cette question de comparaison, hein, s'impose. Comment comprendre le phénomène historique? Est-ce que tous ces thèmes, toutes ces notions sont applicables, pertinentes pour la Chine ou pas, etc. Vous voyez, tout de suite, ça commence. Donc, aujourd'hui qu'on a l'honneur de, hein, d'avoir Madame Claire Sautinel, un grand spécialiste sur l'Empire romain tardive. Donc, c'est très bien, hein, ça tombe très bien. On va continuer cette discussion via une autre expérience historique. Voilà, donc je ne dis pas un mot plus. Maintenant, la parole à Madame Sautinel.
Merci, merci beaucoup. Et je voudrais commencer en remerciant les organisateurs de m'avoir invité. C'est un honneur qui m'est fait et un honneur tout à fait immérité parce que enfin, je ne connais vraiment pas grand-chose à l'histoire de la Chine. Et j'ai accepté avec plaisir cette invitation. Parce que je trouve toujours très agréable de sortir de sa zone de confort et très passionnant de dialoguer avec des domaines différents. Et en même temps, dont les rapports sont assez évidents. Il y a eu dans les années, à la fin des années 90, au début des années 2000, toute une série de travaux travaillant à la comparaison entre le monde chinois et le monde romain sur justement ces notions d'empire. Et j'ai eu la chance, dans les années justement 2000, de participer à un programme qui s'appelait Tributary Empire Compared, dans lequel des spécialistes, alors il n'y avait pas de spécialistes de la Chine, ce qui était un défaut important de ce programme. Il y avait des spécialistes de l'Empire romain, de l'Empire ottoman et de l'Empire moghol. Et j'ai beaucoup aimé ces rencontres extrêmement stimulantes. Cela dit, j'ai bien conscience de venir comme le naïf de la pièce de théâtre qui va poser des questions dont certaines paraîtront sans doute décalées. Je parle donc pour l'Empire romain, un empire d'une certaine façon modeste par rapport à la Chine, puisqu'il n'a duré que un peu plus de 1000 ans sous sa forme véritablement impériale, avant de se transformer en des réalités profondément différentes, je pense. Mais donc, dans ce que j'avais prévu de dire en général, il y a 6 points qui m'ont particulièrement intéressée en lisant ce livre que j'ai trouvé à la fois un peu difficile pour un non-spécialiste parce que la simple chronologie chinoise est... je ne la maîtrise pas du tout, je dois l'avouer tout simplement. Et en même temps, très accessible parce qu'il pose des questions de fond, sans entrer dans un détail d'érudition qui demanderait un plus gros effort intellectuel. Et ces questions de fond, elles accrochent très facilement avec des interrogations venant d'autres horizons. Donc je trouve que c'est un exercice qui se prête au dialogue entre les différentes, non pas disciplines, mais les différentes aires chronoculturelles et que je trouve très très intéressant. Alors, l'Empire romain, il me paraît vraiment. Évidemment, il y a des choses communes. Il y a des choses communes qui sont de l'ordre de l'évidence. Le fait de se considérer comme la seule entité politique digne de ce nom au milieu du reste du monde, on le retrouve dans l'Empire romain assez tôt, dès le 3e siècle, en tout cas certainement dès le 2e siècle avant notre ère. Le fait de considérer que ce qui est extérieur à l'Empire, c'est barbare, c'est exactement la définition du barbare qu'ont les Romains, définition héritée du grec. Le sentiment de supériorité, la conviction d'un destin éternel, ce sont des éléments que l'on retrouve aussi tout à fait dans l'Empire romain. Mais je vois surtout des différences vraiment qui me paraissent vraiment profondes, à moins que j'aie commis des contresens dans la lecture du livre. Si j'ai bien compris, la bonne définition pour la Chine, c'est cette formule tout sous le ciel que l'on retrouve répétée de nombreuses fois dans l'ouvrage. Eh bien, Rome n'a jamais pensé, et je ne connais aucun auteur romain et rien dans l'expression culturelle de Rome qui laisse penser que Rome ait cru jamais être tout sous le ciel. Et ça, je pense que c'est une différence intéressante. Rome a d'abord été le barbare de l'autre. Rome était le barbare des Romains, des Grecs, pardon. Rome était le barbare des Grecs et Rome était même le barbare des Étrusques. Et quand je dis les Grecs, je ne parle pas seulement des cités grecques du Péloponnèse, mais je parle des cités de la Grande Grèce établies en Italie ou en Sicile, bien plus précoces dans leur développement civique que Rome, dans leur développement culturel, et qui regardaient les Romains comme une cité plus ou moins barbare, parce que non grecque, parmi toutes celles qui existaient en Italie. Et lorsque Rome, j'ai eu l'impression de comprendre en lisant votre livre, professeur, que la perception du passé chinois ou la construction de la perception du passé chinois, parce qu'évidemment, c'est la perception d'une stabilité. Je ne prétends pas que cette stabilité est réelle ou irréelle, mais que la vision, c'est que l'empire existe, que la Chine naît empire, en quelque sorte. Les Romains savent très bien, ils construisent leur mythe et leur réalité culturelle sur l'idée que ils commencent par n'être rien pour devenir tout. Les mythes et légendes de la fondation de Rome, tels qu'ils sont transcrits chez les historiens les plus anciens de Rome, c'est une cité née, fabriquée, fondée par des chefs de bandes de bergers et qui d'emblée est une cité qui intègre des populations ethniquement et culturellement diverses. Et ça me paraît un point tout à fait important. Le mythe de la fondation de Rome, Romulus et Rémus, orphelins, nés dans certaines traditions un peu tardives d'un dieu et d'une prêtresse de Vesta, doivent conquérir le pouvoir. Ils sont eux-mêmes d'ascendance troyenne, très lointainement. Donc, ils viennent d'ailleurs, ils viennent de l'autre rive de la Méditerranée. Ils sont les fils de la défaite, d'une certaine façon, à des générations multiples près, puisque c'est Énée, le Troyen, qui a fui la ville de Troie détruite par les Grecs pour un long périple en Méditerranée avant d'échouer en Italie. Et cette tradition, elle ne naît pas avec Virgile, elle existe avant, sous des formes plus sommaires, mais l'origine troyenne et le culte d'Énée est bien attesté à Lavinia, dans des périodes contemporaines des tout débuts de Rome. Donc cette tradition d'une origine éloignée, elle est présente, disons, en tout cas dès le IVe siècle avant notre ère, avant que Rome sorte de ses frontières. Pour ceux d'entre vous qui connaissent un peu la mythologie romaine, un des mythes les plus anciens, que font les Romains? Les Romains sont tous des hommes, puisque pour construire sa ville, outre les quelques bergers qu'il a rassemblés avec lui, Romulus, je passe sur la mort de son frère qui ne concerne pas, qui n'a pas d'importance ici, Romulus instaure un droit d'asile pour faire venir des gens à Rome, donc des gens qui viennent par définition d'ailleurs, et il manquant de femmes, il tend un piège aux Sabins, un peuple voisin, de façon à avoir des femmes et à ce que cette cité devienne féconde et puisse durer. Ce mythe des Romains et des Sabins montre bien un mythe de mélange des populations locales et pas un mythe d'unité ethnique au départ. Et quand on rentre dans l'histoire, on reste dans cette logique de mélange, si l'on veut, puisque les rois de Rome de la fin de la période royale sont étrusques, et que cet héritage étrusque, il est bien présent dans la religion romaine, dans la topographie de Rome, dans les noms de famille, enfin dans les origines de certaines grandes familles romaines. Donc la République romaine qui apparaît au début du VIe siècle avant notre ère, hein, c'est une république multiethnique et qui a la conscience d'être née de rien et d'être encore une cité parmi d'autres. Donc on est tout à fait loin de l'idée d'un tout sous le ciel. Rome est un petit morceau de choses diverses rassemblées pour créer une cité. Et au fur et à mesure que Rome développe une attitude conquérante, c'est-à-dire très très vite, hein, à partir de la fin, enfin de la fin du 5e siècle, hein, conquête de l'Italie, conquête guerre contre les Carthaginois, conquête de l'Orient. Rome est dans une dynamique d'expansion territoriale et d'assimilation de territoires qui ne perdent pas leur unité. Donc, Rome n'a jamais été un tout. Rome a toujours été composite. Et ce qui fait l'Empire romain, c'est la conquête militaire. Et la conquête militaire romaine a été extrêmement violente et a causé des nuisances, pour utiliser un mot faible, très fortes aux pays concernés. Je ne veux pas embellir la conquête romaine. Donc c'est un empire conquérant, un empire dominant et un empire brutal. Mais c'est un empire qui très vite a assimilé les populations conquises et qui a trouvé des modes d'assimilation extrêmement efficaces. Des modes d'assimilation qui n'ont pas du tout, nulle part, effacé les différences culturelles ou ethniques ou linguistiques. Rome n'a jamais cherché à imposer le latin comme langue de toute la population, ni même de toutes les élites. Il suffisait que les élites en relation avec Rome connaissent le latin. Rome n'a jamais cherché à enseigner le latin aux populations conquises. Rome, je veux dire vraiment la puissance romaine. Rome n'a jamais cherché à imposer sa religion aux populations conquises. Et dans le monde méditerranéen où l'histoire se passe, Rome a laissé aux cités conquises l'autonomie de leur administration sans chercher à faire autre chose dans un premier temps qui dure jusque au IIIe siècle de notre ère, donc un premier temps qui s'étend sur de nombreux siècles, n'a jamais cherché à unifier en réalité l'Empire romain. Et Rome a été un empire tributaire. Voilà, c'est ce que je voulais dire. C'est-à-dire un empire qui cherche à obtenir un tribut des provinces conquises pour faire fonctionner sa propre machine d'État. Cela dit, tout en étant un empire tributaire, Rome est aussi un empire intégrateur. Et donc, même sans chercher à imposer ni sa langue, ni sa religion, ni ses formes religieuses, on observe, bien sûr, pendant ces... Enfin, bien sûr, il se trouve qu'on observe pendant ces siècles des phénomènes de mimétisme des élites locales avec les élites romaines, et un phénomène extrêmement complexe sur lequel je ne reviendrai que s'il y avait des questions, qu'on appelle la romanisation, et qui concourt à cette unité. Et ça me paraît une différence vraiment importante dans la conception de ce qu'est l'Empire dans le monde romain et en Chine, en tout cas d'après ma lecture de votre ouvrage. Et le deuxième point que je voudrais aborder, je laisserai peut-être les autres pour cet après-midi ensuite, mais toujours en lien avec l'Empire, il y a un mot dont l'absence quasi totale dans votre livre m'a frappé, alors que son absence ne pourrait serait inconcevable dans un livre qui s'appellerait Qu'est-ce que Rome, donc Qu'est-ce que l'Empire romain? C'est le droit. C'est le droit. J'ai l'impression, en vous lisant, que le ciment de l'Empire chinois ou de la Grande Chine ou de la Chine, quelle qu'elle soit, c'est la culture. C'est la langue, c'est les traditions. C'est la façon de gouverner. Ce qui fait l'Empire romain, c'est le droit. Très tôt. Et c'est la capacité d'intégration de Rome, elle repose sur le droit. Parce que Rome est une cité au départ, hein, ce qui définit, dans un univers où il y a des cités, je me permets de dire ça, au cas où il y aurait parmi vous des gens qui sont peu familiers de l'histoire romaine. Dans le monde méditerranéen des cités, chaque cité est à la fois un territoire, une population, un calendrier, des rites religieux et un système juridique qui va définir qui est in et qui est out, qui est citoyen. Et qui est en dehors de la cité, même s'il habite la cité, même s'il est, alors qu'il soit étranger, évidemment, il y a les esclaves, c'est une autre question très importante. Hein. Mais donc, il y a un statut qui définit le citoyen et le non-citoyen. Rome, à Rome comme dans les autres cités. Lorsque Rome conquiert des territoires, hein, à la toute fin du IIIe siècle, Rome, enfin les autorités romaines ont une idée géniale d'une certaine façon, c'est d'inventer la province, c'est d'inventer la pérennisation de la présence romaine sur un territoire hein, en partageant les responsabilités entre les cités locales du territoire conquis. Le premier territoire où ça se fait, c'est en Sicile. Les cités conservent leur autonomie, mais elles payent un impôt à Rome et Rome prend soin de ce territoire, administre ce territoire. Et ça marche suffisamment bien pour qu'au fur et à mesure que la conquête se développe à partir de la fin du IIIe siècle, eh bien, les territoires soumis par Rome deviennent les uns après les autres des provinces administrées directement par Rome et le tribut se transforme progressivement en impôt payé à Rome qui devient l'État d'un empire au lieu d'être la puissance conquérante d'un territoire soumis. Et Rome donne la citoyenneté romaine avec parcimonie, mais elle la donne à des individus dans un premier temps, mais aussi à des groupes dans des cités entières. Hein, c'est le système que les étudiants, sur lequel les étudiants d'histoire peinent beaucoup, enfin sur les cités de droit latin ou les cités de droit romain, où à tous les habitants d'une cité, jusqu'à ce que, en 212 de notre ère, l'empereur Caracalla donne la citoyenneté romaine à tous les habitants libres de l'Empire. Et là, on pourrait dire que Rome est tout sous le soleil, tout sous le ciel, parce qu'effectivement, cet empire romain, il est immense. Mais les Romains savent très bien. Alors, les Romains ne pensent pas qu'ils sont tout sous le ciel, ils pensent qu'ils sont tout ce qu'il y a d'intéressant sous le ciel, ce qui est une nuance quand même, hein. Et avec beaucoup de mépris pour les barbares. Scots au-delà du mur d'Adrien, Germains au-delà du Rhin ou du Danube. Mais comme par hasard, 212, c'est à peine 12 ans avant que dans le royaume parthe apparaisse une nouvelle dynastie, la dynastie sassanide, qui refonde un empire perse dans ce qui est l'Irak actuel, à peu près. Et qui construisent un empire rival de Rome. Donc, lorsque Rome pourrait être tout sous le ciel, parce que tout le monde est citoyen, donc on a un empire cohérent du point de vue juridique, à ce moment-là, il y a un empire rival qui se développe, qu'on peut qualifier de barbare, mais qui très vite devient un interlocuteur militaire évidemment, mais aussi diplomatique. Ce qui fait que cette conviction d'être tout sous le ciel, pour moi, elle n'a jamais existé dans l'Empire romain et je pense que ça peut être une différence. De même que le droit, comme élément de cohésion de l'Empire, comme élément commun de l'Empire, ça me paraît assez différent d'un Empire qui considère que c'est sa culture, hein, qui est l'élément de cohésion. Sans oublier que cet empire romain, même à son apogée, même au IIe siècle, là, même avant la rivalité, à son apogée territoriale et à un moment où il n'a pas de rival dans les environs, c'est aussi un empire bilingue, il ne faut pas l'oublier. Et c'est une question qui me paraît très importante. Le rapport à la langue me paraît extrêmement différent en Chine et dans le monde, et dans le monde romain. Je propose j'aurais d'autres choses à dire sur les questions de religion et sur les questions de langue, un petit peu aussi sur l'archéologie à l'occasion, mais je propose de m'arrêter là pour ce matin, pour avoir des réponses peut-être.
Oui, si vous voulez encore quelques minutes sur la religion, c'est
Alors,
voilà, c'est.
sur la religion, c'est aussi un point, il y a aussi une autre chose qui me paraît très importante, mais je pense que ce sera très cohérent avec ce que dira mon collègue moderniste. Ce sera, mais peut-être qu'on pourrait justement ça le laisser pour cet après-midi. Je ne pense pas qu'il y ait un passage en Occident de l'Empire à l'État-nation. Il y a un stade intermédiaire très important entre la fin de l'Empire romain et la naissance de l'État-nation. En ce qui concerne la religion, là, pour le coup, je reviendrai à des ressemblances plus qu'à des différences. Parce que si l'on parle de l'Empire, quand on parle de l'Empire romain, on parle d'un empire où ce qu'est la religion ne me paraît pas très différent de ce que vous décrivez des relations entre religion et monde politique dans la Chine traditionnelle. La religion romaine, c'est une religion civique, c'est une religion qui est, dont les prêtres sont des magistrats, les prêtres sont désignés pour remplir des fonctions rituelles qui assurent la bonne harmonie entre le monde divin et le monde des humains. Il n'y a aucune. C'est même pas que la religion est soumise ou non soumise à l'organisation politique, c'est que la religion est un élément de l'organisation politique et chaque acte politique s'accompagne de rites religieux et chaque rite religieux a une portée collective, a une portée collective à l'échelle de la première communauté qui est la famille, ou de la communauté qui est la cité, ou plus tard, à partir d'Auguste, à l'échelle de cette vaste communauté supracivique qu'est l'Empire. Mais il n'y a pas de théologie dans le monde, dans le monde romain, dans le monde gréco-romain. Il n'y a pas de métier, il n'y a pas de sacerdoce au sens, il n'y a pas de carrière religieuse, il n'y a pas de moine, il n'y a rien d'équivalent à ce qu'on rencontre dans le monde chrétien qui, même si le christianisme se développe évidemment dans l'Empire romain. Dans ce monde romain, avant Constantin, avant que l'empereur qui est en 312 adopte le christianisme comme religion dynastique et comme religion impériale. La religion est aussi quelque chose de profondément collectif. Et l'opposition entre une Chine où les valeurs sont celles de la famille et de l'État et l'Occident où les valeurs sont individuelles, ce n'est pas quelque chose qui fonctionne très bien avec le monde romain. Le monde romain, comme tous les mondes anciens, c'est un monde profondément collectif. Entre modernistes et antiquisants travaillant sur le monde occidental, nous avons des débats parfois épiques, les modernistes considérant que la notion même d'individu, elle n'apparaît pas avant l'époque moderne et qu'elle n'est pas pertinente pour l'époque antique. Alors, si l'on parle de philosophie et de conceptualisation de l'individu, et si l'on parle du christianisme, parce que c'est une grosse différence, c'est un élément qui concourt énormément à interrompre une évolution qui serait continue entre des formes politiques, là, on peut faire de la place à l'individu et à la personne. Mais dans la structure politique romaine traditionnelle, on est vraiment dans du collectif et la religion romaine, elle est collective. L'introduction, enfin, comment dire, il y aurait beaucoup de manières de l'exprimer. L'introduction du christianisme comme religion officielle dans l'Empire romain, un processus très long entre qui se développe sur plusieurs décennies, voire sur plusieurs siècles. On pourrait presque dire entre Constantin et Justinien, donc entre le début du IVe et le milieu du VIe siècle, change les choses. Ça, c'est certain. Parce que le christianisme, d'abord, est une religion d'une nature différente de la religion romaine traditionnelle. C'est un monothéisme, bien sûr, qui est beaucoup plus proche du judaïsme que, enfin, qui est une forme de judaïsme, d'une certaine façon. Mais qui est très différent de la religion polythéiste civique romaine, c'est aussi une religion qui est très englobante de la personne humaine. C'est une religion qui porte des modes de comportement, qui porte une théologie, qui porte une compréhension du monde, donc qui change le rapport au monde, ou qui devrait changer le rapport au monde de la personne qui l'adopte ou des groupes qui l'adoptent. Mais tout se fait de manière extrêmement progressive. Mais c'est vrai que le christianisme, qui se développe dans l'Empire romain, mais sans le support ni de l'État ni des élites pendant et qui se forme, elle se développe et se forme pendant 2 siècles, revendique lorsqu'il se rapproche du pouvoir politique une autonomie par rapport au pouvoir politique. Et c'est effectivement dans l'Antiquité tardive, dans un empire chrétien, que se forgent ces relations de rapport de force, on pourrait dire, hein, entre la religion et le pouvoir politique, qui marquent ensuite l'histoire de l'Europe occidentale, en tout cas, parce que effectivement, il y a 1000 façons de nouer les liens entre la religion et le pouvoir politique, depuis la fusion totale entre un empereur théologien qui a comme souci presque principal le salut des âmes et l'unité de l'Église, que sont un peu les empereurs byzantins, en tout cas qui est tout à fait Justinien, ou des rois ou des empereurs qui veulent être autonomes par rapport au pouvoir religieux, ou des religieux qui veulent être autonomes par rapport au pouvoir politique. C'est toute l'histoire, je dirais, de l'Europe occidentale entre le Moyen Âge et le début de l'époque moderne. Et ça, c'est quelque chose, effectivement, qu'on ne voit pas en Chine. Mais en revanche, si on revient à l'idée de l'Empire romain, il ne faut pas oublier que la matrice impériale en Europe, si c'est l'Empire romain, c'est un empire dans lequel la religion et les traditions familiales et le respect des ancêtres et le respect des rites sont absolument primordiaux pour fonder l'Empire. Et de ce fait, il est certain que le développement du christianisme et son adoption, d'une certaine façon, étaient incompatibles avec l'Empire romain tel qu'il existait dans les siècles précédents et ont joué un rôle très important dans la déconstruction de l'Empire romain, remplacé par d'autres formes politiques et aussi d'autres formes culturelles et d'autres formes, parce que la place de la religion dans un espace donné, la place de la religion, ses relations avec le pouvoir politique, avec la culture, évidemment, ça contribue à façonner ce qu'est l'identité, puisque ce mot redoutable qu'on cherche à éviter à tout prix, mais ce que peut être l'identité d'un peuple, d'une population. J'espère ne pas avoir été trop confuse. Je m'arrête là cette fois-ci et je réserve éventuellement du rap pour cet après-midi. Silence.
Merci beaucoup, Madame Sautinel, pour une excellente présentation très synthétique et avec une perspective comparative sur l'Empire romain. Donc, je laisse la parole à Monsieur Cadogan pour réagir un peu à la présentation faite par Madame Sautinel. Oui.
一位罗马史的专家，给我们提供了非常好的这个比较的一个对象。其实这就是我们最近这些年常常考虑的，就是说中华帝国和罗马帝国之间到底有什么一样的地方和不一样的地方，尽管他们都叫帝国。那么我们做历史的人呢，就特别强调它的不一样的地方，因为相同的地方都相同，不相同的地方可能就更重要，尤其是对于后来的影响更重要。
Spécialiste de l'histoire romaine, ici donc en la personne de Madame Sautinel, nous donne évidemment un terme de comparaison par excellence, car depuis des années, avec mes collègues, nous nous sommes penchés donc sur la question de savoir donc la différence ou la similitude donc entre l'Empire romain et l'Empire chinois. D'ailleurs, pour nous, les historiens, ce qui importe davantage, sans doute, c'est là où il existe des différences, car là où il existe des différences, sans doute les conséquences dans l'histoire sont d'autant plus importantes.
我想，第一个最大的不一样的地方是，这个秦汉以来的中华帝国呢，始终不懈的在追求帝国内部的统一性，主要是通过郡县制来推行同样的文字、同样的法律、同样的风俗、同样的伦理。因此呢，在秦汉以后的中华帝国呢，就形成了高度的内部的统一性，而把不同的族群看成是外面的或者周边的那些族群，他把等于是说，他把原来混杂在内部的交错的族群变成统一的，而只是认为外面的人才跟我们中华帝国不一样，所以在汉代初期有一个最有名的文献叫做《王志》， 王志这一篇是收在儒家经典《礼记》里面的，他就说是五方之名，就是五东南西北中五方之名不相同，而且永远不会相同，所以叫南蛮北狄东夷西戎，就是四边都是野蛮人。
Alors, donc un ou le à mon avis ou à notre avis donc l'élément le plus différent donc le plus la différence la plus importante c'est que dans l'empire chinois donc depuis les premiers empires donc vous savez la dynastie Qing et Han l'empire chinois a toujours poursuivi une identité interne. Donc, à son empire, à travers bien sûr le système administratif, donc des provinces, mais aussi à travers donc la norme instaurée unique dans la langue, l'écriture plutôt, l'écriture, les lois, les coutumes, l'éthique. Donc, cette unité ou cette uniformité interne de très haut niveau fait que a été l'effort principal de cet empire. Ensuite, tout ce qui était considéré comme différent, donc, sont mis au dehors. Et de fait, le processus qui donc est advenu, c'est depuis l'état de mixture, probablement à l'origine, on en a fait quelque chose de plus unifié. Et d'ailleurs, cela dès le début donc de l'Empire, puisque un des textes fondateurs de la philosophie ou de la pensée politique chinoise, à savoir Li Ji, donc le livre des rites, dans un des textes donc de cet ouvrage, La gouvernance royale, il était dit que le peuple de cinq directions, hein, le nord, sud, ouest et Est, pardon, ainsi que le centre sont différents. D'ailleurs, on attribuait donc à chaque peuplade ou peuple donc des environs un nom particulier pour les désigner comme un type de barbare particulier. Bon, si vous voulez, je vous donne le nom, hein, donc Pedi, hein, donc on les appelle ceux du Nord, les Nordiques. Ont un nom dit et les orientaux donc un autre les Yi et les Sud sont des Man et les occidentaux peut-être pas vous mais ça j'ajoute si tiens si long de si long pardon voilà sont appelés des gens bon.
刚才这位教授呢，可能注意到了一个现象，就是我在书里面讲法律的部分比较少，而讲文化的部分比较多。实际上呢，秦汉奠定的中华帝国之所以能够成为一个内部同一性非常强的帝国，实际上最主要的一个原因还是，除了郡县制以外，还是用同一个法律。就是大家都知道，这个秦呢是法家，传统说法是法家奠定的。其实，在从韩非、李斯以后。一直到汉代的萧何，都是用同一个法律，同一个法律。这个同一个法律不仅是中央，而且在所有的地方都一样适用。
Alors, donc, Madame Sotinel faisait remarquer l'absence donc de la notion de droit dans mon texte, alors que la réalité, c'est que les lois, hein, il y a une différence en fait, les lois ont joué un rôle fondateur ou même unificateur donc dans l'Empire chinois. Donc non seulement pour des raisons culturelles, mais aussi pour des raisons juridiques, puisque les lois instaurées donc en dehors de l'unité administrative, l'unité juridique, hein, donc dans l'Empire chinois, que ce soit dans la dynastie des Qing, donc le premier empire qui a duré très peu de temps, ou le Second Empire, donc la dynastie Han, c'était les mêmes lois qui prévalaient, qui s'appliquaient à tout l'Empire. D'ailleurs, il est de notoriété publique que les premiers empires chinois sont des empires dits légistes, comme on dit.
特别重要的还有一点就是说，从秦到汉，经历了一个很大的变化，就是秦朝是以官员作为教育的主力，用我们传统的话说，是叫以吏为师，就是以官吏当老师。到了汉代呢，又经过了200年以后呢，又转为以老师为官员。这样呢，就把法律和伦理结合在一起，灌输到最底层的社会。
Un autre fait donc d'importance dans l'évolution de cet empire, donc entre le premier empire Qing et le second empire Han, sous le premier empire, il était d'usage que les fonctionnaires, donc les officiers, jouaient le rôle également des éducateurs. Donc c'est ce qu'on disait, prenant les officiers comme des maîtres. Alors que dans le Second Empire, sous les Han, au bout de 200 ans, le système qui est instauré, c'est faisons des maîtres, hein, donc des intellectuels, des officiers. Alors, ainsi, le système juridique, donc des lois, et le système éthique, enfin, de tout ce qui est moral, de tout ce qui est culture, est unifié à travers donc cette inversion, en fait, qui revient au même.
也许我们如果注意到中国的考古，最近的考古发现的话，就会知道，就是秦朝的法律条文和汉代的法律条文都被重新发现，而且大家都可以看到，它是规定的非常细致，非常细致的。
Les récentes donc découvertes archéologiques ont mis au jour de nombreux documents, manuscrits, donc des documents justement juridiques des premiers empires. Et donc nous voyons à travers ces documents que les règles étaient très pointilleuses et des cas donc de jurisprudence étaient donc aussi très détaillés. Oui, go ahead, s'il vous plaît.
Allez,
Non,
continue. Bon, allez-y. Après, Nichien先生他有一个，他要有一个回应，
当然，辅助这个法律铸造一个帝国内部的同一性的，还有一个就是历史学。大家都知道，司马迁的《史记》从一开始就讲，所有各个地方的人。各个族群的人都是出自同一个来源，就这个人是皇帝的子孙，这个人是皇帝的儿子颛顼的子孙，这个人是皇帝的孙子的子孙。所以呢，整个的在中华帝国内部的人呢，都好像成了一个大家庭，都成了兄弟姐妹。而且呢，大家如果熟悉中国文献的话，还知道还有一个书叫做《世本》，世界的是世本。世本呢，就等于记载了所有的族群和贵族，他们都是有自己的系谱，但是都可以追溯到同一个祖先。因此呢，这个内部的同一性在血缘上就得到保证。
Alors, un autre élément donc fédérateur ou fondateur d'ailleurs dans ce récit d'un empire unifié, c'est curieusement l'histoire ou l'historiographie, c'est-à-dire notamment les écrits donc de Sima Qian, dont des traductions existent, qui donc faisaient descendre donc toute la population chinoise d'une même origine, à savoir l'empereur Zhou. D'ailleurs, un autre ouvrage donc intitulé Origine des généalogies faisait aussi donc établissait également une sorte de généalogie même à tous les dignitaires, les faisant regrouper dans un même arbre familial. Donc tout ceci consiste à établir une sorte de lien même de sang donc n'est-ce pas à l'intérieur de cet empire.
那么这个刚才我也注意到，他提到就是说，在很长时间里面，罗马帝国并没有把这个内部族群的差异性给抹杀掉，也没有要求他们信仰同一个宗教或者是 取消文化的差异性。但是在中国不一样，中国有一句话说是叫做"以夏变夷"，就是以华夏改造所有的夷狄，也就是说，用我们文明人的规则和礼仪来同化全部的野蛮人，让他们变成同样是华夏。
Alors, j'ai noté dans l'intervention de Madame Sotinel que l'Empire romain, pendant très longtemps, n'a jamais imposé, n'est-ce pas, une sorte de unité culturelle au sein de l'Empire, et à maintenir donc une sorte de hétérogénéité intérieure, que ce soit pour les noms de famille, pour la religion et autres. Tandis qu'en Chine, il est une idée majeur ou capital, c'est de transformer les barbares par la Chine, la Grande Chine. Et donc, sous-entendu, évidemment, les civiliser, et donc, par cette civilisation, une homogénéité, donc, et ainsi, au moins attendue ou créée.
所以，我们回过头来总结一句的话呢，就是说，大概我们做历史的人认为，大概中华帝国和罗马帝国最大的差异就是郡县制和保留贵族、保留地方诸侯的封建制。所以，为什么中国历史上一直是要辩论封建还是郡县？这个变成了一个巨大的话题，一直延续到20世纪。
Alors, du point de vue donc des chercheurs en histoire, des historiens donc chinois, nous nous considérons que la grande différence entre l'Empire romain et l'Empire chinois, se trouve dans le système administratif ou le système politique, à savoir que la Chine instaurant le système dit Junxian, donc de province, des échelons administratifs. N'est-ce pas, unifié, tandis que l'Empire romain avait maintenu pendant longtemps donc un système d'aristocratie ou des fiefs, donc et cela a suscité de nombreux débats passionnés donc au sein de la communauté scientifique chinoise pendant très longtemps jusqu'à aujourd'hui.
Madame Sentinelle a certains mots à
Remarque.
dire tout à l'heure concernant.
Pour répondre.
Oui,
Oui.
vous avez dit, vous voulez dire quelque chose tout à l'heure. Voilà.
Non, ben
Oui, allez-y, allez-y. Bon.
Merci beaucoup pour ces.
Oui.
C'est bon. Merci beaucoup pour ces interventions. Je pense. Alors, ce serait vraiment un dialogue très intéressant à poursuivre longuement, mais on ne va pas fatiguer le public excessivement. Pour ce qui est de l'hétérogénéité intérieure de l'Empire romain, c'est tout à fait juste. C'est donc, je ne pense pas que les Romains cherchent à maintenir l'hétérogénéité. Les Romains sont indifférents à l'hétérogénéité. L'hétérogénéité ne les gêne pas tant qu'ils peuvent recruter des soldats, recevoir les impôts. Mais c'est vrai, et ça, c'est une très grande différence. Il n'y a pas de projet de romanisation de la part des Romains. La romanisation, elle se fait parce que l'Empire dure, parce que l'Empire fonctionne bien, mais c'est une romanisation, c'est aussi une hellénisation qui se produit. Il n'y a pas de projet politique d'unification. Que l'histoire soit un moyen soit un moyen d'unification, c'est tout à fait vrai. C'est vrai à Rome aussi, mais la différence, c'est que l'histoire de Rome ne raconte pas une origine commune, ni pour l'Empire, ni pour la ville de Rome elle-même. Et ça, c'est une très profonde originalité de Rome. La plupart des cités grecques ont des mythes de fondation qui sont des mythes d'ancêtres communs. Le mythe de fondation de Rome, c'est un mythe d'immigration, c'est un mythe de refuge, c'est un mythe de mélange. C'est comme ça, je ne suis pas spécialiste des origines de Rome et encore moins spécialiste des mythes, mais c'est l'identité de Rome, c'est d'être composée de gens qui viennent de différentes origines. Mais ça me ramène à la question du droit qui me paraît la plus importante et où peut-être on ne s'est pas très bien compris. J'ai bien vu que dans votre livre, vous parlez très souvent des lois et je ne découvre pas que la Chine est un pays très puissant par ses lois. Simplement, la différence, c'est sans doute que à Rome, c'est la loi qui fait le citoyen, c'est la loi qui fait qu'on est romain. Et très tôt, dès le début de la République romaine et jusqu'à la fin de la République romaine, si on donne la citoyenneté romaine à quelqu'un, même s'il est qu'il soit égyptien, ibère, gaulois ou plus tard go ou germanique, s'il a la citoyenneté romaine, il est romain. Et toute différence est abolie avec les autres citoyens en ce qui concerne l'État romain. Toutes les carrières sont ouvertes. C'est pour ça que l'octroi de la citoyenneté romaine à tout le monde en 212, son importance est discutée parce qu'il y a déjà beaucoup de gens qui l'ont avant 212, mais elle est importante parce que ça veut dire que tous les habitants libres de l'Empire peuvent devenir général d'armée ou sénateur ou gouverneur de province. Et ça arrive. Et ça arrive, alors évidemment, pas fréquemment, c'est pas une ascension sociale, mais la différence, c'est que c'est le droit qui définit la place de l'individu dans l'Empire. Sinon, après, et les lois, jusqu'en 212, les lois romaines s'appliquent dans tout l'Empire, mais elles ne s'appliquent pas à tout le monde. C'est ça la différence, sans doute. Elles s'appliquent bien dans tout l'Empire au fur et à mesure de la conquête, mais elles s'appliquent aux citoyens romains. Et évidemment, dans le cas d'un conflit entre un citoyen romain et un non-citoyen romain, c'est la loi romaine qui décide. Mais les gens peuvent se marier avec leur loi locale. Ils peuvent régler les conflits mineurs en fonction de leur droit local. Ils peuvent conserver leur calendrier particulier. Je reviens, je reboucle avec le début de ma réponse. Il n'y a pas de politique d'unification, en effet. Et il n'y a pas de politique d'unification dans le monde romain avant qu'il y ait une politique d'unification religieuse autour du christianisme dans l'Empire romain, très, très, très tardif, pratiquement après la fin de l'Empire romain en Occident.
OK, professeur,2点，第一点呢，就是说，如果说罗马帝国在形成帝国的时候是没有计划的，那大家看，中华帝国形成帝国的时候是有计划的。大家只要看《史记》的秦始皇本纪，就可以知道：第一，他要传万世；第二，他要用万民用第一个法律；第三个，所有的人要有形同轮、书同文，然后第四个，他要商业发展，把全国变成一个网络，就叫做车同轨。
Alors, je répondrai juste sur deux points. Donc, le premier point, c'est si l'Empire romain, donc au moment de sa formation, n'avait pas de projet d'un empire unifié, d'un uni, c'est effectivement le contraire dans ce qui se passe dans l'Empire chinois, puisque si on regarde la biographie du premier empereur Qin, donc le Qin Shi Huangdi, on voyait que qu'il avait bien l'intention de faire perpétuer le règne de son empire, hein, donc jusqu'à 10 000 générations, et que les myriades, enfin tous les peuples utilisent ou obéissent aux mêmes lois, et puis surtout instauration des normes d'écriture, instauration aussi d'un système d'échanges commerciaux au sein de l'Empire à travers la construction des voies de transport. Et donc, effectivement, là, c'est une différence capitale.
如果说有点跟罗马帝国相似的，不是秦汉以后的这个中华帝国，而是秦汉以前那个西周和东周的帝国。那个帝国是封建制，而且各个地方保持了各个地方的风俗文化、语言以及 各种信仰。
Alors, si on veut trouver dans l'histoire de la Chine, donc de systèmes politiques similaires à un empire romain, on ne parlera pas de l'empire après le premier empire donc de Qing et de Han, mais plutôt avant, donc à savoir les royaumes combattants et le printemps et automne, là où on avait un système qu'on pourrait qualifier de féodal, où il existait de nombreux royaumes rivaux entre eux, et où les coutumes, les systèmes de droit étaient donc différenciés entre les différents fiefs ou différents pouvoirs locaux.
正是因为这样呢，后来我们都记得的都是秦汉以后奠定的那个庞大的和稳定的中华帝国，所以我们也理解了和如果说他和罗马帝国还有什么相似的地方，那就是他把所有的民众都叫做编户齐民，而编户齐民和罗马帝国的公民不一样的地方是什么呢？因为他只强调义务，不强调权利。你的义务是交税，所以大家如果看最近中国出土的非常多的这个简帛资料，你就可以知道那个时代的户口、户籍管理、税收是多么的严密，不可能。所以所有的人他不叫，不应该叫公民，应该叫编户齐民。
Et nous, ce que nous connaissons de l'Empire chinois, évidemment, c'est cet empire fondé à la suite donc, de la dynastie des Qing, donc autour du IIIe siècle avant notre ère. Et ce grand royaume, ce grand empire immense est stabilisé. Si on veut trouver néanmoins donc, un point de similitude avec l'Empire romain, on pourrait parler aussi d'une sorte de citoyenneté ou nationalité unifiée donc pour le peuple. Or, mais à y regarder de près, nous nous apercevrons que c'est tout à fait différent puisque le registre donc administratif très strict donc des peuples chinois donc qui sont enregistrés de façon administrative très précise est différent de la citoyenneté romaine, puisqu'il implique aucun droit, mais toutes les obligations, en particulier l'obligation de payer ses impôts. Et les documents archéologiques qu'on a découverts, n'est-ce pas, nous détaillent très précisément, nous donnent à voir à quel point donc l'administration impériale était pointilleuse dans son contrôle de cette population-là.
Mais c'était la même chose à Rome. Rome fait des recensements de ses populations, en particulier aussi des populations non citoyennes, pour obtenir le paiement des impôts. Et Rome développe aussi une administration pointilleuse, mais sans avoir ce désir d'unification culturelle, hein. Je pense que c'est là, on arrive à un point assez commun. Il y a des systèmes de routes parce qu'il y a une exploitation économique et une exploitation fiscale des territoires qui se développent assez tôt sur le modèle de ce qui se fait, de ce qui se faisait dans les grands empires, dans les grands royaumes d'Orient. On a bien une administration très pointilleuse, mais on n'a pas pendant très longtemps, pendant les 6 premiers siècles de l'histoire de l'Empire, on n'a pas de désir de civiliser les populations conquises. On considère qu'elles se civilisent toutes seules. Mais peut-être qu'il y a moins d'inquiétude sur le projet politique à Rome, en tout cas dans les textes que l'on a, que de scrupules de gouvernement en Chine. C'est tout à fait possible, mais c'est intéressant. Et pour la comparaison avec les royaumes combattants, oui, avec la réserve que ce n'est pas des royaumes dans le monde méditerranéen qu'on a cette spécificité de cette mosaïque de cités qui évidemment fait un substrat un peu différent, pas moins violent nécessairement, mais différent de celui de royaumes qui s'opposent. On n'est pas dans un système féodal, on n'a pas de fief, on n'a pas de seigneurie, on a des cités. L'histoire méditerranéenne avant Rome, c'est une histoire de cités essentiellement.
En effet, donc, ce point, sans doute, c'est un point de similitude entre l'Empire chinois et l'Empire romain, c'est que les barbares, une fois enregistrés, donc, obtiennent le droit de payer ses impôts. Et donc, c'est comme si, donc, lorsque l'administration, une fois donc une population est incluse, la gestion d'une population est incluse dans l'administration officielle impériale, que désormais, voilà, il est considéré comme partie prenante de l'Empire.
Bon, c'est un débat très passionnant, hein, cette discussion très, très intéressante sur tous les plans. C'est un débat, hein, passionnant, très intéressant sur tous les plans. Hein. Donc, je vois le temps passe. Ce matin, c'est prévu, on s'arrête à 13 heures, mais maintenant presque. Donc, je pense qu'on s'arrête là.